Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa et c'est l'heure de l'interview avec au studio Julie, bonjour.
Bonjour.
Et Jean Bay.
Bonjour.
Bonjour. Tous deux, vous êtes coordinateurs de cette organisation proposée du 21 au 23 novembre. Ça sera sous l'égide du collectif Diwa Palestine Solidarité. Et vous proposerez donc Palestine résister à l'effacement. C'est un peu le maître mot de cette proposition. Il y aura de nombreux rendez-vous opérés sur divers lieux de dit, au cinéma Le Pestel, à la librairie Mosaïque, à la Forge d'Auguste, à l'ESCDD et la place de l'évêché. Alors, avant tout, à votre connaissance, quelle est la situation de la population palestinienne aujourd'hui ?
On est quelques semaines après l'officialisation du cessez-le-feu à Gaza. Le cessez-le-feu n'a pas vraiment été respecté puisqu'il y a eu plusieurs centaines de morts dans la population palestinienne de Gaza, du fait de bombardements continus de l'armée israélienne depuis cette signature. Donc la situation ne s'améliore pas vraiment du point de vue sécuritaire, un peu quand même par rapport à ce qui était le cas avant. Et l'aide humanitaire rentre encore vraiment de manière extrêmement limitée. Donc la situation n'est pas vraiment améliorée, en tout cas pour ce qui est de Gaza. Les services médicaux sont toujours quasiment à zéro capacité à peu près partout sur le territoire de la bande de Gaza, ainsi que la fourniture en eau. Et donc tous les besoins de base sont encore très insuffisamment, trouvent pas la réponse encore, quoi. Et derrière ce que l'on voit principalement donc à Gaza depuis 2 ans, il faut rappeler qu'il y a une situation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui est marquée au quotidien par des attaques des colons et des soldats de l'armée israélienne. Ces attaques de colons ont fait plus d'un millier de victimes depuis le 7 octobre. Et en fait, on ne le sait pas parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de la Cisjordanie, mais il y a un millier de checkpoints qui ont été installés pour rendre la vie quotidienne vraiment impossible pour les Palestiniens de Cisjordanie. Donc voilà, c'est bien de pas oublier qu'il y a cette situation derrière celle de Gaza.
Là, les informations qui sont celles qu'on connaît aujourd'hui par les médias, mais est-ce que vous avez aussi des sources plus précises de la situation de la population, notamment celle de la bande de Gaza ?
Ce qui est compliqué à Gaza, c'est que depuis le début de la guerre génocidaire menée par Israël, depuis octobre 2023, en tout cas de cette phase de la longue guerre faite aux Palestiniens de Gaza, il n'y a pas de journaliste étranger qui a été autorisé à rentrer. Ce n'est que très récemment, là, après la signature du cessez-le-feu, qu'il y a pu avoir quelques visites vraiment hyper encadrées, hyper rapides. Auparavant, il y avait eu 1 ou 2 journalistes qui avaient réussi à faire fuiter des images au moment des survols aériens qui avaient été autorisés, mais c'est très très récent. Sinon, depuis 2 ans, il y a un grand problème de passage d'informations depuis cette zone de guerre. C'est une des stratégies israéliennes de la guerre, c'est-à-dire de faire disparaître les images. Et un des moyens pour ça, ça a été de cibler les journalistes, en fait, de manière délibérée et répétitive. Il y a plus de 250 journalistes qui ont été tués à Gaza, à ma connaissance, sur les 2 dernières années, ce qui fait de ce conflit, entre guillemets, ou de cette zone de guerre, le lieu le plus lourd en perte pour ce qui est de la profession journalistique, lourd en perte depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Il n'y a pas d'autres lieux où les journalistes sont autant mis en danger que là-bas. Et donc, en fait, il y a un grand souci d'information. D'autres médias qui couvraient, par exemple, en Cisjordanie, comme Al Jazeera, ont été expulsés de la Cisjordanie par les autorités israéliennes, et ce qui fait que petit à petit, en fait, le champ médiatique s'étiole, et donc, en fait, on compte énormément sur les gens qui, depuis leur smartphone, poursuivent un travail d'information au quotidien, même si même si ce n'est pas en tant que journaliste.
C'est là où je voulais en venir, c'est pour vous quand même, ce sont des sources d'informations, au-delà de celles des groupes médiatiques, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour peut-être engager des directions sur ce mouvement du collectif, pour être solidaire avec le peuple palestinien. Voilà. Et donc, il y a cette proposition hein, sur ce long week-end avec des propositions de films. Alors, ce seront des documentaires, j'imagine.
Alors, il me semble que oui, il y a un documentaire qui a été réalisé par Sipide Farsi sur la photojournaliste Fatma Hassouna, qui a été tragiquement bombardée hein, par les forces israéliennes. Il y aura également un film qui s'appelle Jean de Gaza, qui est en présence donc du réalisateur Franck Mera, qui a été réalisé en collectif, il me semble, et qui a été coécrit avec, je ne sais plus son nom, pardon.
Ayman Kouader.
Et il y a également un film qui s'appelle Pas en mon nom, de Daniel Kupferstein, voilà, qui sera présent également le dimanche.
Comment opérez-vous ce mouvement qu'est le collectif Diwa Palestine Solidarité par rapport à la demande émanant de Gaza? Quels sont vos objectifs, vos missions même pour assister?
Bah déjà, dans un premier temps, on s'est constitué de façon informelle en se réunissant les jeudis à 18h devant la cité scolaire. Donc c'est un rendez-vous hebdomadaire dans lequel on se partage des informations, où il y a un fil info à chaque fois, ça commence par ça. Et puis des informations sont échangées, où il y a des lectures de poèmes, éventuellement différentes choses. Et il y a, à côté de ça, il y a des actions qui sont constituées. Donc il y a un groupe BDS sur le Diwa, Boycott des investissements sanctions, qui a fait quelques actions au sein des supermarchés locaux, notamment par rapport aux produits en provenance d'Israël, pour essayer de faire prendre conscience au directeur voilà, de l'impact que ça pouvait avoir. Et puis il y a des réflexions sur différentes actions, il y a des manifestations voilà, qui ont été rejointes par des membres du collectif. Et puis il y aura une réflexion tout au long du week-end par rapport à ça, comment faire pression en fait, sur les gouvernements et voilà, et les pousser à appliquer des sanctions contre Israël. Donc il y aura des moments de discussion sur le sujet. Mais c'est pas évident. Nous, on pense que la société civile doit prendre le relais justement parce que il y a un silence complice de notre État et qui voilà, met pas en œuvre ce qu'il faut pour arrêter le génocide qui est complètement passif, donc en fait actif dans sa prise de position au profit d'Israël. Donc voilà, c'est compliqué de trouver des actions, mais...
Je reviens un peu aussi à cette reconnaissance opérée par de nombreux pays, hein, de la reconnaissance de l'État palestinien. Celle de la France, c'était le mois dernier. Qu'est-ce que ça a produit chez vous, cette annonce?
Je crois que la France est le 163e pays des Nations Unies à reconnaître l'État de Palestine. La reconnaissance par les États extérieurs vient renforcer en fait un mouvement qui émane de l'État lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, une population peut à un moment donné décider de se déclarer en tant que nation et être reconnue ensuite par les institutions internationales. La reconnaissance par les États vient juste renforcer ce mécanisme. Et en fait, ça fait un certain temps qu'il y a un siège de... qu'est-ce que c'est ? J'ai oublié le nom. Au sein de l'Assemblée générale pour la Palestine. Et seulement, ce qui manque aujourd'hui à la Palestine, c'est réalisation, les conditions effectives d'une réalisation en tant qu'État. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir être un État, il faut pouvoir avoir souveraineté complète sur un territoire, être en capacité de défendre sa population sur son territoire, être en capacité de mener de mener la souveraineté de l'État d'un bout à l'autre du territoire et d'avoir souveraineté sur les ressources, etc. Aujourd'hui, ce qu'il y a de Palestine en termes territorial, par exemple, c'est un ensemble de confettis, comme je disais tout à l'heure, découpés par un ensemble de checkpoints. Il y a Il y a peut-être 20, 50 ou 100 îlots de territoires qui représentent aujourd'hui une forme d'archipel pour la Cisjordanie. La bande de Gaza, qui était déjà un minuscule territoire, est maintenant occupée à moitié par l'armée israélienne. Il n'en reste que la moitié. C'est donc des espaces territoriaux tout petits, discontinus et enclavés à l'intérieur d'Israël. Il est très compliqué pour l'autorité palestinienne ou pour ce que seraient les institutions dirigeantes d'un État palestinien aujourd'hui de fonctionner efficacement. Bon, il faut rappeler qu'on est dans le cadre d'une occupation militaire, d'une occupation de type colonial depuis au moins 1967. On peut faire remonter cette occupation à 48, quoi, selon la lecture politique qu'on en a, mais en tout cas, au niveau du droit international, depuis 1967, il y a une occupation militaire étrangère qui, du coup, ne permet pas cette souveraineté pleine pour la Palestine. Donc la reconnaissance par la France ou par d'autres États intervient de manière un peu symbolique, en fait. C'est une reconnaissance comme pour finalement dire on joue le jeu d'aller vers la paix, etc. Par contre, ce que l'on ne dit pas, c'est que l'exécutif français, donc le président, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et de la Défense, ont continué à fournir des armements et des équipements militaires à l'État d'Israël pendant ces deux années de génocide, ce qui du coup place en fait les responsables français dans une situation légale de complicité en fait de génocide. En tout cas, il y a des poursuites qui sont aujourd'hui lancées contre les membres de l'exécutif français, puisqu'il faut savoir que jusqu'à jeudi dernier encore, il y avait des équipements qui partaient de l'aéroport de Roissy et qu'il y a un certain nombre de livraisons, d'expéditions au départ de Fos-sur-Mer qui ont été bloquées par des syndicalistes des installations portuaires ou des installations d'aéroports qui commencent à se positionner comme en Italie pour refuser de continuer à expédier du matériel qui pourrait être utilisé là-bas.
Pour illustrer le propos sur l'évolution des terres de la Palestine, sur le site Papayou, il y a quatre cartes qui chronologiquement démontrent le démantèlement de ce territoire. La question que je posais, c'était par rapport à votre action ici en France. Qu'est-ce que cela a permis, cette reconnaissance de l'État palestinien ?
Ben, je crois que nous, on est tous assez d'accord pour dire que c'est déjà une reconnaissance tardive et vaine dans la mesure où il n'y a pas de sanctions prises contre Israël et qu'il y a même, ils continuent de les armer.
Combien même dans l'État actuel, est-ce que l'État a forcément une participation sur ce trafic d'armes ? Est-ce que Israël ne s'approvisionne pas autrement aussi, sans passer par les États de toute manière ?
Il se trouve qu'Israël est un État qui a construit une partie de son économie en interaction avec l'existence d'une armée très forte, en tout cas dans laquelle il y a eu un investissement continu depuis son indépendance, et que du coup il y a en fait un pôle industriel militaire en Israël qui est très développé, mais c'est pas réservé à Israël. En France, on a des fabricants d'armes qui font de nous, je crois, le cinquième exportateur d'armes au monde. En tout cas, on est un des États qui fournit le plus Israël ou avec lequel il y a le plus d'échanges militaires. L'Allemagne est aussi un gros fournisseur. Les États-Unis, évidemment, n'en parlons pas, c'est le premier fournisseur étranger d'armement à Israël. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars sur les dernières années. Et en fait, sans ce soutien militaire, Israël ne pourrait pas poursuivre en fait ces guerres perpétuelles contre les civils. Et s'il y avait des sanctions en fait qui étaient opérées contre Israël, qui étaient prises par l'Union européenne ou par les organisations internationales ou par même juste la France individuellement, ça ralentirait sans doute. En tout cas, ça exprimerait autre chose dans le rapport de force. Là, on est vraiment dans le cadre d'une complicité. Il n'y a pas l'ombre d'une critique en fait à l'encontre de la violence et de l'irrespect du droit international dont Israël se fait l'auteur, quoi. Il y a eu 18 trains de sanctions contre la Russie depuis les deux ans et demi de l'agression russe sur le sol ukrainien. Il n'y a pas eu le début d'un premier train de sanctions contre Israël depuis deux ans.
On va revenir sur le programme, hein, avec ce premier soir du 21 novembre, avec une introduction de cuisine, avec le confrier égaré. Ça sera un mezzé palestinien qui sera proposé par Kelig. Et donc, ça se passera comment d'ailleurs? Ça sera à partir de 19h. Elle travaille avec sa caravane, j'imagine. Est-ce qu'il y aura un espace extérieur ou comment sera aménagé ce moment?
Oui, c'est ça. Il y aura un food truck qui sera présent avec Eiling pendant tout le week-end. Il me semble au début devant le Pestel, le vendredi soir et le samedi matin, après la conférence qui aura lieu au Pestel. Et ensuite, ce sera place de l'Évêché, devant le STDD, où se poursuivront les discussions et conférences, etc.
Alors, je reviens un peu sur cette projection de ce documentaire « Put your soul on your hand and walk » sur la vie de cette journaliste Fatma Hassouna qui a succombé dû à une explosion proche d'elle. Pour vous, qu'est-ce que représentait cette personne?
Je vais découvrir le film avec le public. Ce que j'en ai lu, ce que j'ai compris, donc, c'est qu'elle elle était une interlocutrice. Il y avait ce dialogue installé avec la réalisatrice Sepideh Farsi. Elle, donc Fatma Hassouna, était une jeune photojournaliste palestinienne de Gaza de 24 ans. Et un dialogue, du coup, s'est installé entre elles deux qui a mené, du coup, à cet objet filmique. Et cet objet a été présenté ensuite à Cannes et, en 2024. Et la semaine qui a suivi sa nomination, l'annonce de sa nomination à Cannes pour être projetée et discutée, Fatma Hassouna a été assassinée délibérément par l'armée israélienne la semaine qui a suivi sa nomination. Vraiment, et du coup, il y a quelque chose où cette jeune femme super souriante qui avait une mission de documentation de la vie quotidienne, de passage d'informations au monde, depuis ce qui est une grande prison, en fait, Gaza, il y a quand même plus de 17 ans de blocus. Cette mission a été interrompue à 24 ans, parce que il y a une autorité guerrière offensive qui décide que doivent disparaître les témoins de cette réalité.
À la suite de cette projection, une discussion aura lieu avec comme titre « Le rôle des journalistes ». Il y aura l'intervention de Ibrahim Badra, qui est journaliste, et également Nour Elassi. Alors, cela permettra peut-être de comprendre un peu la situation de ce métier au sein de ce conflit. Et peut-être, est-ce qu'il y a de nouvelles réflexions aussi de ce qu'est être journaliste sur un terrain de conflit? Ça, c'est peut-être les questions qui se poseront à cette soirée.
Ibrahim et Nour sont en France, là, dans le cadre d'un programme d'accueil universitaire. Et ils sont tous les deux originaires de Gaza. Ils sont arrivés en France l'année dernière, et là, il y a quelques mois. Et du coup, c'est une grande joie de pouvoir les accueillir ici à Die. Actuellement, ils sont étudiants dans d'autres villes, assez loin en France, mais du coup, ils ont accepté notre invitation. On peut retrouver des chroniques qu'ils ont signées individuellement, ou peut-être même ensemble, il me semble. Ça s'appelle « Chronique de Gaza » sur Mediapart. Et auparavant, ils étaient contributeurs à d'autres médias arabes. Et petit à petit, voilà, ils avancent dans leur carrière. Donc, ils viendront nous parler de la vie à Gaza, de la vie en tant que journaliste et répondre à nos questions aussi au cinéma à la suite de la projection vendredi soir.
Le samedi 22 novembre commencera à 9h avec une conférence-discussion sur le droit international face à l'anéantissement de Gaza. Pour cela, plusieurs intervenants, Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations Unies en visioconférence, d'Alain Farage qui est avocate juriste, Al-Haq, ce sera aussi en visioconférence, Dominique Cochin, avocate honoraire, et ensuite qui est avocat pour la justice au Proche-Orient, donc ça sera une prise en considération de ce qu'est le droit actuellement pour ce pays de la Palestine.
Ben oui, c'est-à-dire que le droit international n'est absolument pas respecté par Israël et pas défendu non plus par l'Europe et la France.
C'est un état des lieux, en quelque sorte.
Oui, c'est ça. Ça sera un état des lieux et voilà, un échange autour de ce droit bafoué et voilà les potentielles actions qui peuvent être mises en œuvre au niveau individuel ou collectif, les recours juridiques qui peuvent être faits, notamment à l'encontre des militaires franco-israéliens qui devraient être poursuivis et qui ne le sont pas actuellement en France, tandis que des Palestiniens ou des manifestants pour la Palestine sont incarcérés ou, voilà, en tout cas poursuivis pour des faits qui sont plutôt dérisoires à côté. Donc voilà, ça sera pour faire un état des lieux de tout ça. Je ne suis pas forcément capable de vous en parler plus, mais voilà.
À 11h45, présentation du livre « Antisionisme, une histoire juive » de Sonia Feynman et Béatrice Aurès, et qui sont au sein de l'Union juive française pour la paix. Ça, c'est aussi un autre regard du côté israélien de cette situation.
Pour le coup, c'est donc pas des Israéliennes, c'est des Françaises, effectivement d'origine juive, donc qui font partie de l'Union juive française pour la paix, qui est une association qui est très, qui milite beaucoup là-bas et ici contre la colonisation, contre le génocide évidemment qu'elle dénonce. Et malheureusement, on n'a pas réussi à avoir de voix israélienne. On a une personne qui devait venir et qui n'a pas pu venir, qui est Nitzan Perelman, qui est sociologue franco-israélienne et qui aurait pu nous apporter cette voix-là. Mais en revanche, voilà, y aura cette association, entre autres, qui représente aussi voilà, les Français juifs qui sont aux côtés des Palestiniens et qui luttent pour l'égalité des droits et contre la colonisation.
À votre connaissance, est-ce qu'il y a aussi ces difficultés d'information pour les Israéliens qui sont contre, justement, ce conflit? Est-ce qu'ils ont une liberté d'action, d'expression, autant qu'avant?
N'étant pas en Israël, c'est difficile d'avoir un point de vue exactement objectif. Il y a toujours des publications d'opposition ou de critique existantes en Israël, mais il y a une pression très forte de la part des pouvoirs publics, des autorités militaires, des autorités des différents ministères où se trouvent aussi les représentants des idéologies vraiment extrêmes, les plus extrêmes. En tout cas, il y a un contrôle de l'information et une forme d'autocensure existante dans la société israélienne très forte. Il est très compliqué d'être militant opposé aux lignes d'opinion dominantes qui sont la poursuite de la colonisation, la poursuite de la guerre, pour retrouver une espèce d'état sans doute irréel, mais un état imaginaire de sécurité et qui passe par la destruction de l'autre, en fait, en l'occurrence des Palestiniens. C'est hyper compliqué aujourd'hui d'être opposant en Israël. On aurait aimé pouvoir avoir des représentants aussi de groupes de réfusniks, de ceux qui refusent de faire le service militaire, qui sont actuellement, là, il y a quelques représentants en tournée en France qui vont passer à Lyon dans les jours qui viennent, mais on ne pourra pas les avoir parce que leur calendrier est déjà plein, ils ne pourront pas venir à bord de l'événement. Mais voilà, en tout cas, avoir des voix juives critiques, des voix juives antisionistes, par exemple, qu'elles émanent d'Israël ou qu'elles émanent de France, c'est hyper précieux parce qu'il faut aujourd'hui pouvoir se rassembler dans la diversité et que chaque voix compte au sein de cette diversité. Si on peut avoir tous les arguments critiques et toutes les raisons de venir critiquer et de venir refuser cette politique coloniale, ça vient renforcer le mouvement et donc on est hyper heureux d'accueillir l'UJFP avec nous.
Nous retrouverons à midi le repas, hein, toujours proposé par le camphrier Égaret. Et l'après-midi, on parle rapidement de ça, puisqu'on a quand même bien traité jusqu'à présent du rôle des médias dans le génocide à Gaza, avec donc les participations de Ibrahim, toujours, Nour, Arthur Dumas, journaliste à l'Humanité, et Sonia Freeman, toujours avec Béatrice Aurès également. Et en projection, à 16h30, ça sera Jean de Gaza, donc ce documentaire de Franck Mera et de...
Ayman Quader, du coup.
Ayman Quader, merci beaucoup. Et Jean de Gaza, c'est quoi? C'est une prise de notes sur un moment, puisque ce film date de 2013. Est-ce que ça permet de situer un peu le contexte de ce qu'était ce pays avant cette ruine?
En voyant des images de Gaza en 2013, on peut être surpris par le fait qu'il y ait déjà... des ruines visibles ou des impacts de la guerre, des guerres successives un peu partout. Je crois qu'on compte 5 guerres à Gaza sur les 20 dernières années, avant même la guerre de 2023 qui a rendu Gaza quasiment à l'état de ruine totale. Et donc, en fait, voir ces différentes personnes filmées 10 ans avant les événements dans lesquels on se trouve maintenant, ça te permet aussi de donner un peu de recul et de profondeur historique au fait que la réalité n'a pas commencé le 7 octobre, qu'il y avait une réalité d'enfermement et de grande violence contre la population palestinienne depuis très longtemps. En fait, il faut savoir aussi que les gens de Gaza sont pour la plupart des réfugiés de 1948 qui ont été chassés d'autres parties de ce qui est devenu Israël en 1948, donc de leur village palestinien, et que du coup, en fait, l'histoire continue et continue et continue. Et donc, voir ces portraits de Gaza en 2013, ça permet de redonner un peu de temporalité, quoi.
Il y aura à 17h des lectures, toujours avec la présence de Nour, Nehama Hassan, Mohsab Aboutoa et des intervenantes telles que Nour, toujours poétesse, Maud Leroy aux éditions Delizière, et Béatrice Moulin, Philippe Grenier et Laurent Lovy, comédiens et comédiennes. Ensuite, à 19h30, il y aura de nouveau un repas avec le Confrier, toujours, et une soirée musicale avec un concert de Wadi Al-Khoury, qui est danseur, slammer et rappeur. Ça sera à partir de 21h. Et j'imagine qu'il exprime aussi ce désarroi de ce pays.
Wadi est syrien. Et les destins au Proche-Orient sont bien liés entre les Syriens, les Libanais, les Palestiniens. Il y a cette culture qui infuse au-delà des frontières. Et puis, il y a pas mal de traversées culturelles au-delà des frontières. Du coup, Wadi, il est chanteur, rappeur, il est danseur aussi. Le dimanche, il sera avec nous pour nous initier au Dabke. Et le samedi soir, il nous présentera son projet actuel, qui est donc un projet assez contemporain de rap et de chant. Voilà, ça sera à partir de 21h à l'espace social. Et j'invite toutes et tous à venir profiter de la qualité de sa production, de la qualité de ce qu'il va nous proposer. Et pour ceux qui et celles qui aimeraient écouter de la poésie, eh bien, on sera à 17h à la librairie Mosaïque pour explorer un petit peu de la poésie palestinienne actuelle.
Le dimanche, ce sera une discussion avec le traumatisme colonial, stratégie d'anéantissement et voie vers la libération. Et donc, ça sera un moment de réflexion avec William Dufourcq, coordinateur du projet d'accueil, et ainsi que Ashtar Somi, thérapeute psychocorporel et systémique. Alors, ces traumatismes, on imagine bien qu'ils sont perceptibles, ne serait-ce que par rapport à ces deux personnes qui sont étudiants en France actuellement, qui seront présents dès samedi. Je parle d'Ibrahim et Nour. Je pense qu'eux seront à même aussi de parler de ce traumatisme. Et ce sera par leur présence également qu'on pourra assister à cette discussion.
Ashtar, du coup, elle est palestinienne elle aussi, et en tant que Française d'origine palestinienne, vivant cet exil en fait transgénérationnel et une forme d'impossibilité de retourner sur les terres familiales, de renouer dans la durée l'histoire là-bas. Elle vit à son niveau une partie de ce spectre de traumatisme. En fait, quand on est palestinien d'Israël, palestinien de Cisjordanie, palestinien de Gaza, palestinien de la diaspora, on est soumis à tout un tas de privations de sa pleine liberté, de sa pleine vie, que l'on soit sous occupation militaire, sous la menace physique au quotidien, que l'on soit susceptible d'être arrêté, d'être bloqué dans une situation d'urgence de la vie, que l'on soit bloqué dans ses projets, ou bien que l'on porte en soi la mémoire du déracinement, que l'on porte ici en France aussi les marques du racisme, parce qu'il y a toujours un racisme anti-arabe existant en France très fort et qui s'applique aujourd'hui aussi aux Palestiniens, puisque s'il peut y avoir dans les médias des appels à la violence génocidaire, dans les médias français, sans aucune poursuite, hein, de la part de présentateurs télé ou de la part de célébrités qui viennent proférer des atrocités à la télé, quand on reçoit ça en tant qu'auditeur ou auditrice, français ou française ou non, mais en tout cas avec une histoire qui nous relie à la Palestine, ou même une histoire anciennement colonisée par la France, on ne peut que être blessé en fait, par cette persistance d'une tolérance au racisme, à l'islamophobie. Et du coup, il y a tout un tas de dimensions de ce trauma colonial qu'on pourra discuter. Il y a des stratégies d'anéantissement vraiment multiples de la part du colonisateur, tout comme la France en Algérie a utilisé un large spectre de violence pour déshumaniser les Algériens, pour autoriser aussi les colons à avoir des politiques violentes. De la même façon, Israël déploie une large palette de stratégies pour anéantir l'être palestinien, l'être sur sa terre en tant que palestinien, palestinienne. Et du coup, c'est de toutes ces réflexions qu'on va venir discuter.
Et d'ailleurs, il y aura une application l'après-midi hein, de cette thématique, puisqu'il y aura un atelier avec une mise en lumière des discriminations systémiques, avec donc divers abords. Ça sera animé par Ashtar, toujours. Et il y a une prévision de 20 places maximum hein, pour cet atelier. Donc, il y aura une préinscription à opérer par mail. On indiquera les coordonnées en fin d'émission. Ensuite, à 14h, il y aura cette projection aussi de « Pas en mon nom » de 2019. Ce film date et il a été réalisé par Daniel Kulterstein en présence du réalisateur. Donc, c'est aussi un regard d'un juif aussi sur ce conflit.
Oui, moi je le découvrirai à cette occasion. Je ne l'ai pas vu, mais effectivement, ce n'est pas en mon nom. C'est au nom de sa judéité qui ne cautionne pas ce qui se passe effectivement en Israël.
Dabke, pardon, ça sera de la danse levantine, hein, donc issue de ces terres de Palestine. Ça sera animé par Wadi, que nous retrouvons pour cette initiation à la danse. Et tout au long de ce long week-end, il y a une exposition photo, Gaza, la vie sous les décombres, une exposition proposée par Hussein Jaber et qui couvre une période d'un an depuis avril 2024 à juillet 2025. Alors, ces photos sont affichées donc au cinéma Le Pestel, mais également à l'espace social et culturel du Diwa, à visiter donc à tout moment où il y a des horaires précis, parce que là, je vois de 9h à 22h, donc c'est un lieu ouvert continuellement.
Alors l'espace social sera ouvert à partir du samedi matin jusqu'au dimanche soir et l'exposition sera permanente tout au long du week-end. La deuxième exposition, donc il nous manque un intitulé là dans le programme malheureusement qui s'appelle Enfants en quête de vivre, qui est l'exposition de photographies qui ont été prises en juillet 2025. La première regroupant des photos datant d'avril 2024. Donc on a deux séries de photographies à peu près un an d'intervalle à Gaza. Ces photos sont d'Hussein Jaber et la deuxième série donc sera exposée au Pestel la semaine avant, depuis le début de la semaine avant l'événement jusqu'à la semaine suivante. Il me semble quelque chose comme ça, à peu près deux semaines d'exposition. Et ce sont deux expositions de photos qui tournent en France. Il est possible de nous contacter aussi si vous souhaitez rentrer dans le réseau des lieux, des collectifs qui exposent ces photographies. Et comme ça, on fait circuler en France cette expo.
Il y aura également un bar d'hommes, hein, place de l'Évêché. Ça sera un stand ou des stands militants, des stands de semences, des infos kiosques et aussi buvettes. Que signifie cet idéogramme qui est utilisé sur votre programme ?
Ce que l'on voit en haut à droite, c'est une calligraphie qui, si on la prend par la partie droite et qu'on arrive à lire l'arabe, si on prend par les lettres droites du cœur, je dirais, la partie plus claire, on voit un F, un L, un S, un T, un I, un N, donc Palestine, et au-dessus, on voit Hora, Palestine Hora, Palestine libre, puisqu'on peut souhaiter aujourd'hui, comme hier et pour de vrai, la liberté pleine et entière, la souveraineté pour les Palestiniens sur leur terre.
Julie, votre engagement pour vous, quelle importance revêt-il sur cette action ?
C'est difficile pour moi d'en parler parce que c'est quelque chose qui me touche énormément au point que voilà, je ne suis pas forcément capable de vous parler d'éléments politiques et de développer sur ces aspects-là. Je ne suis pas forcément une oratrice non plus.
Vous êtes plus pour une action ? D'agir, aider.
Je sais pas. Je pense qu'au départ, c'était aussi pour partager mon indignation que je me rendais à ce rassemblement le jeudi sans forcément penser à des actions possibles. Maintenant, avec le temps, c'est vrai que j'apprends beaucoup au contact de gens qui sont très politisés et qui ont des idées d'action qui peuvent faire changer les choses. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment de sortir de l'indifférence et d'exprimer. Voilà, notre impuissance et notre sentiment de révolte, quoi, par rapport à ce qui se passe et par rapport à cette complicité de notre État. Et je rappelle que les rassemblements ont lieu donc tous les jeudis soirs à 17h à partir de ce soir. Et que voilà, c'est un moment qui permet aussi d'échanger et de... Même sans forcément passer à l'action, c'est déjà important de montrer qu'on manifeste son soutien au peuple palestinien. Et par cet événement qu'on organise, moi je me suis posé la question de savoir si c'était vraiment indispensable aux Palestiniens, comment on pouvait agir au mieux pour les aider. Et je pense que ne serait-ce que de parler de sujets qui sont pas abordés dans les médias, de sortir du mensonge étatique qui est de nous donner une vision du monde partiale en soutien à un État colonialiste et qui est en train d'exercer, de génocider une population. Ne serait-ce que ça, d'aborder un autre regard et d'en parler, je pense que c'est important pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe et envie d'agir et de nous rejoindre lors de manifestations ou voilà, de mettre la pression sur ce gouvernement. Il n'y a pas beaucoup de manifestations importantes en France aujourd'hui. C'est lié sans doute à l'histoire de notre pays et son lien à Israël, mais voilà, c'est un peu absent.
Jean B, justement, est-ce que ce type de mouvement que l'on voit surdi, est-ce qu'il se propage ou existe-t-il également en France ces petites organisations qui expriment leur indignation ?
Je pense qu'il y a un mouvement qui se fait un peu partout, en France, dans les pays voisins, et dans tout un tas de pays, en fait, une solidarité assez forte s'est exprimée avec les Palestiniens à l'occasion des deux dernières années. Je pense que beaucoup de gens ont été touchés par les images de la violence extrême qui a été déployée contre eux. Il y a quand même eu des manifestations massives sur tous les continents, là, en solidarité avec la Palestine. Et peut-être qu'en France, on est un des pays où les manifestations sont les moins fortes. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se compter à 1 million en Angleterre, 1 million en Italie, 1 million en Belgique, un million en Espagne sur des cumuls de manifestants, sur des grosses journées. Et nous, on rame, on est encore très très loin de ça. Il faut savoir qu'en France, en fait, on a aussi des problématiques qui nous restent à dépasser, quoi. Il faut qu'on fasse des forums, des agora, il faut qu'on comprenne en fait de quoi est faite notre culture collective, de quoi est faite notre culture politique collective, qu'est-ce qu'il faut que l'on dépasse en France pour se regarder non plus dans des catégories divisées, mais pour trouver du commun entre nous, du commun politique. Est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui temps là, de se dire, en fait, on a des choses à préserver, on a des choses à défendre avant qu'elles soient effacées. C'est-à-dire que quand on voit le travail de sape intellectuelle qui est fait par les organes d'information principaux aujourd'hui, je ne vais pas leur faire de publicité, mais tout ce que sont les radios de Bolloré, les télés de Bolloré, les journaux de Bolloré et des autres, hein, que ce soit Drahi, Kretinsky, les autres, mais en fait, ils ne vont pas dans le sens de notre émancipation et de notre capacité critique. Au contraire, ils nous expliquent que si c'est la crise, c'est à cause des étrangers, que si le monde va mal et que le climat ne se réchauffe pas, d'ailleurs, mais c'est à cause des étrangers, etc. Et c'est toujours la faute à l'islam, aux étrangers ou quoi que ce soit. Et c'est jamais la faute des... ou je veux dire, la responsabilité, jamais, on ne regarde jamais vraiment les multimilliardaires qui ont des facilités à défiscaliser et par contre et du coup voilà, nous on est entretenus dans des schémas de pensée peut-être qui nous permettent pas de penser qu'on a de la force collective, alors qu'en fait que ce soit à Die, dans le Val de Drôme, à Valence, en région lyonnaise, marseillaise, partout en France, il y a des collectifs pour la Palestine. À Grenoble, le même jour, là, le samedi, il y aura aussi des actions, d'autres collectifs, d'autres organisations. Un peu partout, en fait, il y a des gens qui sont mobilisés. Mais peut-être qu'il faut qu'on avance plus nombreux dans ce mouvement pour faire face, pour être fort.
Cette organisation aussi nécessite un financement. Pour cela, il existe ce site, cette plateforme Papayou, qui permet de contribuer aussi à cette prise en charge hein, pour cette organisation. Et puis, peut-être indiquer un dernier moment, celui d'une chanson ou d'un air qui terminerait cette émission. Pour cela, Jean-Bé, je crois que tu proposes un artiste.
Oui, il y a une chanson qui a été composée par, il me semble, Ahmed Mouine et qui fait... En fait, cette chanson émane de Gaza dans les deux dernières années. Et Ahmed Abou Hamcha est professeur de musique à Gaza avant le génocide. Et donc, pendant le génocide, il a continué à essayer de maintenir des ateliers musicaux sous les tentes des camps de réfugiés. Et il y a une des chansons donc, de ce groupe qui s'appelle Gaza Birds Singing, les oiseaux de Gaza chantent. La chanson s'appelle « Shel Shel Ya Ajmal Shel » et elle a été composée notamment sur la tonalité en fait, qui est celle des drones dans le ciel de Gaza, qui circulent nuit et jour depuis des années dans le ciel de Gaza. Et la tonalité du morceau est donc basée là-dessus et c'est une façon de dépasser en fait, la violence de la guerre et d'en faire une chanson qui vienne se répandre dans le monde. Cette chanson, elle est aujourd'hui pas mal diffusée dans le monde. Je ne sais pas si vous l'aurez déjà entendue. Moi, chaque fois que je l'écoute, elle me touche beaucoup. Shel Shel.
Pour vous contacter, comment peut-on opérer cette prise de contact ?
On peut nous contacter sur jeudipalestine@riseup.net. Alors, à la fois pour s'inscrire à l'atelier sur les discriminations systémiques, mais aussi par rapport à notre recherche de bénévoles. Si jamais des gens sont intéressés de nous rejoindre en amont ou pendant l'événement, on va avoir besoin de beaucoup de monde pour nous aider à mettre ça en place, notamment la cuisine, voilà, aux navettes, à l'installation, etc. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse.
Juste une chose, là, c'est le programme entier, parce que vous n'avez aucun autre soutien, que ce soit de collectivité ou d'apport technique ou...
Alors, le week-end est organisé avec le soutien de l'espace social et culturel, puisqu'on a des locaux mis à disposition. Le Pestel nous a permis aussi du coup, d'organiser cette projection du vendredi soir. La Forge d'Auguste, c'était un lieu privé, mais du coup, on va pouvoir être, ainsi que la librairie Mosaïque. Du coup, pour l'instant, on a fait apparaître sur notre programme le Festival des Solidarités, le logo du Festisol, puisqu'ils nous ont subventionné pour l'organisation de cet événement. Et ensuite, je crois que c'est ça pour les partenariats.
Oui, c'est ça. On a été un peu soutenus par la FPS qui nous a permis d'obtenir des produits, notamment du matériel militant pour le revendre et des kéfiers aussi en provenance d'Hébron, en Palestine. Donc pour les vendre au profit de l'événement. Voilà. Et puis le collectif nous soutient beaucoup aussi le jeudi soir, donc à 17h, je rappelle.
Eh bien, Julie et Djembé, je vous remercie tous les deux au nom d'un Djembé.
Je voulais partager une dernière information. Oui. Le samedi 29 novembre, ce sera le 78e anniversaire du plan de partition du territoire palestinien qui date de 1947. Et donc, il y a une grande manifestation nationale à Paris avec des bus affrétés le samedi, départ à 4h de Valence ou 4h30 de Romans, retour le dimanche dans la nuit. Si vous voulez plus d'informations et que vous n'avez pas reçu le message de l'AFPS, n'hésitez pas à nous écrire sur jeudipalestine@riseup.net et on vous renverra les infos. Il est encore temps de s'inscrire dans les bus destination Paris pour aller peser à Paris ensemble.
Julie et Djembé, je vous remercie tous deux d'être venus pour nous parler donc de Palestine, résister à l'effacement qui s'organise à Die du vendredi 21 novembre au dimanche 23. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Oh, Duan, how are you? I miss you a lot, really. Today there's a lot of drones. I'm going to sing you a song today with drone. شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل ومن الله لا أسهر على نجوم الليل أنا نديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل ليل يا ليلو ويل ويل عالظالمي ويل ويل ومن الله لا أسهر على نجوم الليل أنا نديلو شيل شيل يا جمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل وين وين عالظالمي وين 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 لا أسهر على نجوم الليل أنا نديل شيل شيل عالجمالي شيل يا حوطك بالله دم الشهيد معطر بالهيل